Lundi 8 avril, Paris, ministère de l'économie et des finances.
Vous écoutez Café Conso. Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso. Aujourd'hui, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Olivia Grégoire, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, madame la ministre.
Bonjour Olivier Dauvers.
Alors je ne sais pas si ça se fait parce que le savoir-vivre, c'est pas forcément ma qualité première, mais je vais rajouter bonjour Olivia, parce que c'est loin d'être la première fois qu'on se rencontre. Merci de partager ce café conso avec moi. Un mot de présentation, vous êtes donc entre autres ministre de la consommation. J'imagine que c'est un sujet la conso que vous avez étudié à l'ESSEC, dont vous êtes diplômé, autant dire que vous connaissez les ficelles du marketing. Un petit mot déjà, comment on passe de l'ESSEC à Bercy ?
On part plein de chemins de traverse. D'abord, vous êtes bien renseigné. J'ai fait un master spécialisé de marketing management à l'ESSEC en 2001, c'était hier. Et j'avais très volontairement choisi une spécialité sur le comportement des consommateurs, un comportement pour lequel je nourris une certaine passion. J'ai ensuite rejoint dans ma première mission, mon premier travail, les services du Premier ministre. J'étais diplômée en communication et marketing et j'ai rejoint le service d'information du gouvernement avec Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre alors. J'y ai appris la communication publique. J'ai ensuite été appelée par un ministre de la Santé à l'époque en 2005, Xavier Bertrand, pour être à ses côtés durant 2 ans, en charge notamment de la communication au sein de son cabinet. En 2007, les sirènes du secteur privé m'appellent, me voilà salarié dans un très grand groupe américain dans un premier temps. Et puis, je rejoins une petite agence française, W et compagnie, agence dans laquelle je resterai 2 ans avant de rejoindre à nouveau un très grand groupe qui s'appelle Veralia et qui est une des filiales du groupe Saint-Gobain. Après de multiples vies de salariés dans des petites, moyennes et grandes entreprises, je décide de monter ma propre structure en 2014, une petite, toute petite structure de conseil et d'accompagnement pour les PME innovantes. Et c'est là que j'accompagne un certain nombre de PME françaises, notamment sur le marché américain, pour trouver des investisseurs, pour élargir leur développement, avant de m'engager en politique en 2016 derrière Emmanuel Macron.
C'est comme ça qu'on arrive à Bercy quelques années plus tard.
C'est en travaillant pour ceux qui auraient, je l'espère, envie de s'engager pour le collectif, parce que je reste optimiste et je crois que la politique a du noble. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que polis en grec, et les mots ont un sens, ça veut dire la gestion de la cité. J'ai eu envie de m'engager, j'ai été élu député de Paris, Paris 15e et une partie du 7e arrondissement en 2017. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans à la Commission des finances. J'ai porté un gros texte qui s'appelle la loi Pacte, qui était le plus gros texte économique du dernier quinquennat. Et ça n'est qu'à force de travail et d'engagement que j'ai eu l'honneur d'être élue vice-présidente de la Commission des finances avant d'être appelée au gouvernement en 2020 pour m'occuper de l'économie sociale et solidaire. Dans le privé comme en politique, un seul secret, le travail et l'engagement.
Est-ce qu'on fait encore ses courses quand on est ministre ?
Alors, 2 fois plus depuis qu'on est ministre et maman. Ouais. Depuis 2 ans, je fais mes courses très majoritairement au sein des marchés, que ce soit le marché de Grenelle ou d'autres marchés dans Paris. Il y a certains marchés où je vais qui sont loin de chez moi, mais que je trouve chouettes. Je pense au marché qui est à Magenta ou au marché d'Aligre. Donc très souvent en direct auprès des primaires sous les marchés.
Mais les couches culottes, on ne les trouve pas.
Alors on mange beaucoup de fruits et légumes, de viande et de poisson, beaucoup de commerces de proximité, nos artisans bouchers, nos artisans poissonniers, nos boulangers. Pour le reste, on fait ses courses principalement en ligne pour ce qui est du non-alimentaire, les couches et pas le lait, puisque ma fille, pendant longtemps, tout le monde s'en fiche, mais je vous le dis quand même, pris du lait de riz, qui n'est pas forcément toujours disponible dans les grandes et moyennes surfaces. Et donc, pour tout ce qui est du non-alimentaire, plutôt des courses en ligne, même si pour les courses du quotidien, enfin les courses non-alimentaires, je privilégie quand même le fait de me déplacer, quitte à aller chercher trois packs d'eau, parce que j'aime faire les courses et que j'ai besoin aussi, en tant que ministre de la Consommation, du contact avec les linéaires, du contact avec les hôtesses de caisse.
Voilà. Le dernier supermarché dans lequel vous êtes allé ?
Hier, un Carrefour de proximité.
Alors, si je suis passé prendre un café aujourd'hui, c'est pour évoquer un sujet qui nous est cher à tous les deux, la transparence des ingrédients dans les produits alimentaires. Et un sujet qui avance, puisqu'on est au cœur d'une séquence qui a démarré mi-mars jusqu'au début du mois de mai pour aboutir à la création d'un nouvel indicateur, l'Origine Info. Déjà, pourquoi s'être emparé du sujet Origine ? Quel a été le déclic ?
Alors, le déclic, déjà, ce sont les autres. Et vous n'y êtes pas pour rien, Olivier Devers, puisque je trouve que l'honnêteté est une valeur importante. Je n'ai rien inventé. Il s'avère qu'au mois de janvier, ça n'a échappé à personne, le gouvernement n'était pas au complet et qu'il y avait en même temps l'explosion de la colère de nos agriculteurs et que de façon un peu frustrante, je me retrouvais assez impuissante en attendant et en espérant rejoindre à nouveau le gouvernement. Et j'ai suivi d'un peu loin tous les débats liés à la crise agricole. Et lorsque je regardais les revendications fort légitimes des agriculteurs, notamment dans les grandes et moyennes surfaces, on va s'en reparler, par rapport à l'affichage des origines, je me suis déjà dit une chose, je me suis dit on parle beaucoup de l'amont agricole et c'est bien normal, il est indispensable que nos producteurs agricoles soient rémunérés à hauteur de la qualité et de l'engagement qu'ils ont, mais je me suis aussi dit c'est quand même dingue, on parle beaucoup de l'amont agricole et je n'entends pas parler d'aval. Or, en consommateur, en consommatrice que je suis avant d'être ministre, en maman que je suis avant d'être ministre, on a quand même chacune, chacun, un rôle à jouer dans le choix qu'on fait de nos denrées alimentaires et dans le questionnement de leur origine pour ce qui est de la matière première de ces aliments et ces denrées alimentaires. Et donc, j'ai commencé à me renseigner en profondeur et je me souviens qu'il y a quelques années, 2018, 2019 notamment, il y avait déjà eu des échanges, des débats sur ce sujet, et je me rappelle d'un hashtag « Balance ton origine ». Je commence à plonger dedans fin d'année dernière, début de cette année, et je me dis voilà des gens, et notamment le collectif En Vérité, et notamment Olivier Devers, vous-même, qui avez poussé cette idée de plus de transparence sur l'origine des denrées alimentaires. Et donc, mes déclics dans le désordre, c'est à la fois l'action du collectif En Vérité, qui porte ce projet depuis des années et qui a publié une étude en fin d'année dernière, qui dit quand même que à peu près 8 consommateurs sur 10 sont soucieux et attentifs de l'origine des ingrédients des denrées alimentaires, au même titre que le prix. Et donc là, l'ancienne étudiante de l'ESSEC se dit, il y a le déclic prix, et ça, je l'avais observé, notamment depuis la vague inflationniste depuis 2022, mais pas que ce déclic prix, il y a aussi le croisement avec le déclic origine.
Ce qu'on appelle la valeur, en fait.
La valeur et la provenance. Mmh. Et donc, dans le désordre, il y a cette action du collectif En Vérité. Il y a évidemment les postes nombreux et étayés d'Olivier Devers avec Balance ton origine. Et puis, il y a, je vous le disais, les images de nos agriculteurs, de nos producteurs qui, en janvier notamment, allaient dans des hyper, des supermarchés, pour dénoncer l'usage abusif, parfois, de drapeaux français, alors qu'aucun ingrédient n'était d'origine française. Tout ça mélangé m'a fait me dire qu'il y avait un enjeu à prendre en main, que l'amont agricole était essentiel, l'aval tout autant, et que derrière chaque consommateur se cache un citoyen, et que l'acte d'achat n'est pas un acte anodin.
Donc l'objectif, c'est de donner des raisons aux consommateurs de modifier ses achats. Des raisons tangibles, c'est-à-dire en sachant ce qu'il achète.
Il y a plusieurs temps, et notamment dans votre interrogation. Le premier temps, qui est un impondérable, c'est qu'on nous dise plus, on nous dise mieux, on nous dise plus facilement et plus fréquemment d'où viennent les ingrédients qui composent nos denrées alimentaires. Ceux qui nous écoutent le savent. Depuis des années, vous avez l'origine des fruits et légumes qui est affichée dans les grandes et moyennes surfaces. Depuis des années aussi, vous avez l'origine des viandes, que ce soit dans le commerce de proximité en grandes et moyennes surfaces. Vous avez l'origine des vins, mais pas encore de démarche homogène sur les ingrédients qui composent les denrées alimentaires. Et donc, Le premier objectif, il est extrêmement neutre et je tiens à insister là-dessus. D'abord et avant tout, mon combat, c'est la transparence. On doit l'information aux consommateurs sur les ingrédients majoritaires, les plus importants, qui composent la denrée alimentaire qu'il achète dans le commerce de proximité, comme en grande et moyenne
mais
surface.
Le lien avec la crise agricole, c'est que si on lui doit la transparence, c'est parce qu'on escompte qu'il va changer.
Et point deux,
fort
de cette information, j'escompte, et j'ai bon espoir qu'un certain nombre de nos compatriotes fassent évoluer leurs choix et leurs arbitrages. Ils sont nombreux à dire, ils sont ultra majoritaires à dire à quel point nos producteurs agricoles sont essentiels au pays, sont essentiels aussi à leur bonne alimentation. Je dirais que c'est un peu comme en amour, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Encore faut-il savoir pour pouvoir évoluer, faire évoluer son comportement alimentaire et son acte d'achat. Donc grand 1, de la transparence, effectivement grand 2, en espérant qu'on passe des paroles aux actes et qu'on choisisse plus souvent quand il y a l'origine des ingrédients de provenance France.
Même si on est d'accord mais, que tous les consommateurs ne le peuvent pas.
Alors, c'est ce que j'allais dire, mais il faut être très précis, et je sais que vous l'êtes quand vous en parlez. C'est pour ça que je dis que je suis objective. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se batte pour donner l'information. Et après, le consommateur fait, avec cette information, s'il le veut, encore faut-il qu'il le veuille, s'il le peut, en fonction de son porte-monnaie aussi. Mais en tant que ministre, il est indispensable, et ce qui est impondérable, c'est ma quête de l'information pour que le consommateur puisse arbitrer en connaissance de cause.
Et votre intuition, c'est que ça modifiera la façon d'acheter d'une partie des consommateurs. Le fait de savoir et d'avoir accès à l'origine.
Alors mon intuition, déjà c'est une lapalissade, mais il faut le dire, mon intuition c'est que si on ne dit rien, rien ne va changer. Déjà, pardonnez-moi, c'est très basique, mais c'est pas si facile quand vous achetez des muesli, par exemple, où vous avez plein de variétés de céréales, du chocolat. C'est pas si facile, a priori, de savoir d'où vient l'ingrédient composé. Deuxièmement, et on va s'en parler, il y a aussi quelques utilisations un peu border du drapeau bleu, blanc, rouge. Sous prétexte que c'est assemblé ou mis en boîte, par exemple, en France. On a quelques exemples, et j'ai quelques exemples en tête, de logos bleu, blanc, rouge extrêmement visibles. Et puis quand vous regardez la réalité de la composition des ingrédients, les ingrédients sont d'ailleurs d'origine UE et hors UE, ce qui est assez fréquent, c'est-à-dire de la planète Terre, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Là, on est pas loin, et d'ailleurs la DGCCRF contrôle activement, hein. Je vous rappelle qu'il y aura 10 000 contrôles sur l'année, on est déjà à plus de 3 000 contrôles sur ce qu'on appelle la francisation, c'est-à-dire l'utilisation, le prétexte d'utilisation du drapeau bleu-blanc-rouge pour enclencher l'acte d'achat, alors même que la réalité, c'est qu'aucune matière première agricole n'est d'origine française. Donc, moi, je voudrais de la clarté, de la transparence. Je n'ai pas de morale, je n'ai pas de jugement dans mon combat. Mon combat, c'est la transparence. Si le consommateur peut et le veut, alors qu'il ait les moyens de choisir. Mais il faut être très vigilant, et c'est intéressant de partager avec vous, le fait que déjà, nous avons fait évoluer, en écoutant les parties prenantes que j'ai rassemblées ici le 13 mars dernier, c'est-à-dire à la fois les représentants des industriels.
Justement, sur ce moment-là, oui, le 13 mars, il y avait les représentants des industriels, des consommateurs. Les industriels, d'ailleurs, c'était les petits, les moyens, les grands. Il y avait les distributeurs, pardon. Selon la communication qui a été faite, tous ont dit oui à l'idée de s'engager. Bon, j'imagine qu'ils ne pouvaient pas faire autrement une fois qu'ils étaient invités et qu'ils avaient dit oui.
Si,
est-ce qu'ils étaient sincères?
Alors, pardonnez-moi déjà une incise. L'histoire a démontré, notamment l'an dernier, que quand les acteurs veulent dire non, et je sais de quoi je parle, ils savent dire non.
Donc là, c'est le panier anti-inflation.
Par exemple. Mm-hmm. Donc, on a beau les inviter, avoir une discussion très franche et cordiale, il n'en demeure pas moins que la possibilité de dire non est une possibilité
donc,
réelle.
Le 13 mars, ils ont dit oui à
ils
cette
ont
démarche
dit
de transparence.
Oui à la démarche.
Sincèrement, d'après vous. Et pas juste sous la contrainte parce qu'ils étaient rassemblés et que
vous savez,
celui qui allait dire non.
C'est pour ça que je parle beaucoup d'objectivité et pas de morale de mon côté. Moi, je ne cherche pas nécessairement à faire l'exégèse des positions. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais l'ANIA, j'avais l'ILEC, j'avais la FEF, j'avais ADEPA, la coopération agricole, la Fédération du commerce de la distribution, et bien sûr les enseignes de la distribution sans exception, mmh. et les associations de consommateurs, de défense des consommateurs. À la question, pensez-vous important, alors moi j'ai dit que je trouvais ça important, qu'on informe mieux le consommateur sur les ingrédients qui composent majoritairement les denrées alimentaires, il me semble que le consensus était là. Est-ce que c'était un consensus fin, volontaire, naturel, inné, acquis, etc.
Spontané et
en je laisserai les philosophes de la consommation en faire le bilan après. Moi, ce que je sais, c'est que depuis le 13 mars, je suis très pragmatique, on avance. Depuis le 13 mars, on a travaillé un cahier des charges. On a proposé des logos. Depuis le 13 mars, nous avons des échanges fréquemment avec l'ensemble de ces acteurs pour challenger, pour modifier le cahier des charges et faire en sorte qu'on passe de quelque chose qui est souhaitable à quelque chose qui soit possible.
Alors, il y a beaucoup d'objections qui sont arrivées dans le débat de la part de certains, alors dont on peut se demander si c'est fin ou volontaire pour savonner la planche, hein. Mais on va les prendre une par une, ces objections-là. Il y en a une, c'est encore un label. C'est-à-dire trop de labels. Et Dieu sait que, factuellement, il y a beaucoup de labels dans les produits alimentaires. Est-ce que cette objection, elle est inentendable ?
Je pense à Cyrano de Bergerac, quand vous me dites ça. C'est un peu court, mon cher.
C'est un peu court. Fois, on me le dit.
Non, mais c'est un peu court parce que... de quoi on parle ? On parle de consommateurs qui me semblent être en droit, en 2024, d'en savoir plus sur la majorité des ingrédients qui composent le bien qu'ils achètent. C'est le cas pour les fruits et légumes, c'est le cas pour les viandes, c'est le cas pour les vins, c'est le sens de l'histoire.
La transparence est un dû.
Ah oui, d'accord. Très clairement. La transparence, c'est au cœur de la valeur, et je pense que ça n'est que le début. Et je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire, et que c'est fondé. On a aujourd'hui, effectivement, sur certains produits, pas mal de logos ou de labels.
Oui, parce que c'est la deuxième objection. Il n'y a plus de place sur les packs.
Oui. Alors, je trouve, c'est là que je dis, c'est un peu court. On ne parle pas de rien. On parle de permettre à l'acheteur potentiel, au consommateur, de savoir en un clin d'œil, assez facilement, dans le cadre de ses courses, un peu sur le même esprit que le Nutri-Score, quelle est l'origine majoritairement des ingrédients qui composent la denrée alimentaire. Je ne demande pas qu'il y ait une philosophie et je ne demande pas nécessairement l'exhaustivité des ingrédients qui composent la denrée alimentaire. Ça fait partie des discussions que nous avons en ce moment même avec les acteurs. Le mieux est toujours l'ennemi du bien. Toujours. Et en politique aussi. Donc il ne s'agit pas d'inscrire 15 ingrédients. Il s'agit peut-être de présenter 2, 3, 4 ingrédients majoritaire, et il s'agit en un clin d'œil de rendre ceci visuel. Je crois qu'il faut aussi ne pas prendre les consommateurs pour des canards sauvages. Il y a de plus en plus de QR codes, tout le monde le voit. Il y en a d'ailleurs dans beaucoup des échanges commerciaux. On a aussi possibilité de réfléchir, et ça fait partie des discussions que nous avons avec les parties prenantes. J'entends ce qu'ils me disent, et moi j'ai à cœur que ça se fasse, donc peut-être qu'il ne faut pas tout mettre sur le logo, en mettre suffisamment pour informer le consommateur, mais s'il souhaite en savoir plus, qu'il puisse, avec son téléphone, en faisant une photo, avoir possibilité d'en savoir plus.
Donc concrètement, il faudrait deux vitesses. Un premier niveau de lecture pour en gros savoir à quelque chose près, et ensuite quelque chose qui soit disponible en ligne, en l'occurrence c'est ça l'intérêt d'un QR code, mais qui soit complet.
C'est ça qui se comprend. C'est mon sentiment, c'est une idée, c'est ce qui me semble être aujourd'hui le plus complet. Donner le minimum nécessaire à l'acte d'achat, et pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou détailler plus amplement leur démarche, le mettre sur un QR code. Ce que font déjà un certain nombre d'acteurs de la consommation entre guillemets responsables. J'ai en tête des TPE, des PME françaises qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas afficher l'intégralité des provenances de leurs ingrédients et qui pour autant, parce qu'elles le font par exemple en circuit court ou parce que c'est du bio ou parce que ont beaucoup de choses à dire pour valoriser leurs produits. Alors elles le font déjà sur leur QR code. Derrière, on me dira, il y a tout l'enjeu, et je ne suis pas aveugle, il y a tout l'enjeu aussi générationnel. Comment nos aînés, comment à 70 ans, 75 ans, on n'est pas forcément habitué au QR code, comment est-ce que ça peut se développer ? Je pense qu'on peut réussir à faire savoir comment se servir d'un QR code en consommation. On a des médias grand public qui peuvent nous y aider. Et je pense qu'il est...
Les médias pourront aller piocher dans ces informations-là pour s'en faire le relais.
Exactement.
Parce que
exactement.
C'est aussi l'intérêt de rendre l'info disponible.
Après, de la souplesse avant toute chose, et toujours le mieux est l'ennemi du bien. Vous avez, par exemple, des débats en ce moment même qui sont fort intéressants au sein des parties prenantes sur le cahier des charges pour savoir où il faut apposer ce logo. Est-ce qu'il faut le mettre on-pack? Est-ce qu'il faut le mettre dans le magasin? Est-ce qu'il faut le mettre sur le prospectus? Est-ce qu'il faut le mettre sur le drive? Ça fait partie des sujets qu'on est en train de discuter. C'est l'avantage de l'âge. Moi, je crois que quand on tient, ce qui est mon cas, absolument à une démarche, il faut de la souplesse au démarrage pour rallier le plus d'acteurs possible. C'est d'ailleurs la méthode du Nutri-Score.
Est-ce qu'il vaut mieux un petit pas dans la bonne direction que finalement viser trop loin et ne pas bouger?
Bah, est-ce que c'est ça aujourd'hui? Évidemment, évidemment, par expérience.
Même si le pas est trop petit aux yeux de certains.
Oui, ce que est trop grand aux yeux d'autres. Mmh. Et c'est le cas déjà. Mmh. Certains, évidemment, je ne dirais pas qui, trouvent que la marche est très haute et d'autres sont là pour être très exigeants. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, pour tout vous dire, dans la réunion du 13 mars, c'est que chacun défendait sa place et ça s'entend. Que nos associations de défense des consommateurs soient très exigeants.
Parce qu'elles, elles veulent une marche immense.
Et obligatoire, mmh. Mais c'est aussi leur rôle. Elles défendent la consommation dans ce qu'elle a de noble, donc c'est leur rôle. Que certains industriels ou groupes très intégrés qui exportent, qui aient des difficultés à afficher on-pack un drapeau ou une provenance France alors qu'ils exportent beaucoup en Europe de l'Est, la ministre que je suis l'entend aussi. Mmh. Donc, si l'objectif, et je vous le dis, c'est bien l'objectif, est d'essayer, vous savez, il y a cette expression, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais test and learn. Mm-hmm. On va tester, on va y aller de façon assez libre, on va y aller sans passer par la loi, on va y aller peut-être avec un logo unifié, ça je l'appelle de mes voeux, avec un cahier des charges, mais en laissant un peu d'air, un peu de souplesse aux différents acteurs, voir comment ça se déploie dès cet été, puisque c'est l'objectif, voir comment ça vit. Voir aussi, en retour d'expérience, 3, 4, 5 mois après la mise en œuvre, quels sont les freins, quels sont les potentiels à explorer, et puis se mettre en position, puisqu'on a une formidable opportunité, vous le savez, l'année prochaine, avec la révision de la directive INCO, information consommateur, qui pourrait permettre à la France, peut-être, de porter, au même titre qu'elle le fait pour le Nutri-Score, l'idée d'un origine info européen. Ça fait partie aussi des objectifs. Mais si on veut atteindre cet objectif, il ne faut pas perdre les trois quarts des...
On va revenir sur les autres objections, pardon, mais un petit mot sur la méthode. Ça aurait été tellement plus simple de le rendre obligatoire, une loi et puis basta. C'était irréaliste, infaisable.
Je pense...
Ce n'était pas souhaitable, ce qui n'est pas tout à fait la même réponse.
C'était pas possible parce que je ne peux rien rendre d'obligatoire sur l'emballage des denrées alimentaires dans le cadre du droit européen.
Oui, la France seule ne peut pas imposer.
C'est bien pour ça qu'on teste, on s'entraîne, je prends la métaphore des JO, on va tester ensemble, on va essayer d'être les meilleurs possibles. On est une grande puissance agricole, hein, je reviens à ce que je vous disais au démarrage, la France a une légitimité, la France c'est la France de la puissance agricole, c'est la France aussi de la consommation responsable avec le Nutri-Score. Testons, améliorons le dispositif, et portons ensemble, pourquoi pas, une dynamique d'obligation partagée au plan européen. Mais je ne peux pas, en respect du droit européen, démarrer au nom de la France, démarrer par une obligation qui ne serait que sur les produits ici en France.
Alors dans les autres objections qu'il y avait de la part de ceux qui sont pour, mais pas trop quand même, il y avait la notion que c'est difficile. C'est compliqué, on a des approvisionnements qui varient d'une saison à l'autre, par moment on peut manquer de matière. Est-ce que cet argument, il est entendable? Et deuxièmement, est-ce qu'il est contournable dans cet indicateur pour qu'il soit quand même mis en œuvre, malgré cette difficulté qui paraît quand même assez facile à comprendre? On ne s'approvisionne pas toujours sur les mêmes endroits, les mêmes fournisseurs, quand on est un industriel agroalimentaire.
Alors ça, je me permettrais de rapprocher de la première partie de l'interview. C'est un peu court aussi. Beaucoup de choses sont difficiles.
Moi, j'ai des problèmes de taille.
Non. Vous ne vous faites que le porteur de messages que j'entends. Beaucoup de choses sont difficiles. Et si on s'arrête à la barrière de la difficulté, je vais vous dire, un conseil d'amis, déjà, ne soyez pas ministre. Et deux, ça fait partie d'un portage de politique publique, de rencontrer des écueils, des difficultés. De voir ce que je vois, c'est que ce qui est difficile est réussi par certains très grands acteurs que j'ai en tête, par exemple, qui, malgré l'ampleur massive de leur approvisionnement et de leur distribution, parviennent à annualiser une matière première agricole sur un produit laitier, par exemple.
Je l'ai montré de toute façon, moi je peux le citer, c'est Lactalis qui, sur ses plaquettes de beurre, dit que, je crois que c'est de mémoire, 68% en moyenne annuelle de son lait est français.
Voilà.
Donc cette moyenne annuelle, elle convient à la ministre dans la notion de transparence.
Déjà,
ça, c'est un bon compromis.
Déjà, je vois quoi ? Je vois que rien n'avait été demandé et que c'est fait sur certains produits. Je vois que malgré la complexité et le volume de la marque que vous avez citée, de l'acteur que vous avez cité, ils essayent, pareil. Donc la ministre, elle n'est pas là pour taper, surtout des gens qui essayent. C'est un objectif vers lequel on doit tendre, d'annualiser. C'est pareil, on doit avoir un peu de... D'abord, toujours de la modestie quand on fait de la politique et un peu de tolérance. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tout le monde va réussir à annualiser... son achat de cacao sur l'intégralité de ses gammes de biscuits au chocolat. Ça, c'est rêver. Voir que des grands groupes parviennent déjà et démontrent que c'est possible, c'est intéressant parce que ça me permet de dire à d'autres acteurs qui font beaucoup de volume, bah, si l'un des plus gros y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
On parle quand même du premier industriel agroalimentaire français quand on parle de Lactalis. Hein.
Et donc, si sans obligation, certains s'y essayent, je pense qu'il y a un passage.
Et il y a une dernière objection que l'on entend aussi, c'est la notion de confidentialité. Le lieu d'approvisionnement, ça fait partie d'une forme de secret d'affaires. Est-ce que c'est entendable là aussi ? Ou est-ce que ça fait partie de ces faunés qui sont mis dans le débat pour dire si ça ne se faisait pas, ça nous arrangerait ?
D'abord, je veux dire une chose, c'est que il y a aussi certains acteurs grandes distrib comme industriels qui ont à gagner dans cette démarche. Je veux quand même rappeler que il y a aussi un certain nombre de matières premières agricoles dans ces denrées alimentaires qui sont françaises.
Oui, mais eux, ils le revendiquaient déjà, la plupart du temps.
Pas forcément de façon automatique sur l'intégralité de leurs produits et ils ne... Tant que le débat public n'avait pas posé la lumière sur ce sujet, j'ai certains en tête qui le faisaient, et vous le savez, puisque depuis 2018-19, vous en parlez, mais qui ont pris des baffes plutôt que des félicitations dans la transparence. La transparence, c'est aussi avoir le courage de dire la vérité. La transparence, c'est dire parfois que sur certaines matières premières agricoles, elles viennent d'Asie, des États-Unis, d'Amérique latine. Bon. Et donc... moi, j'observe qu'un certain nombre d'acteurs l'ont déjà fait, même quand ça n'était pas forcément à leur avantage.
Donc l'argument de la confidentialité, il n'est pas très très fort.
Non, parce que pour le coup, je pense qu'on est ici plutôt sur le volet industriel. J'entends, pour être aussi sur les négociations commerciales, comme vous le savez, je sais la valeur des recettes et de la composition pour les acteurs industriels. C'est le secret de la réussite. Donc j'entends ça. Mais je crois que le secret et la potion magique, elle est dans la recette, dans l'assemblage, dans la façon dont on cuisine, on mélange ces ingrédients beaucoup plus que sur une provenance en réalité. Donc je ne crois pas que ce soit de nature à forcément empêcher la démarche. Encore une fois, on est sur une démarche, je sais que ça étonne parfois dans ce pays, mais on est dans une démarche de bonne volonté, assez libre. L'idée étant qu'on soit le plus nombreux possible pour porter ensemble la démarche l'année prochaine en Europe. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'inéluctable, c'est la demande légitime d'information des consommateurs. Plus de 80% de poids dans l'acte d'achat, c'est pas anodin. On a réussi pour le Nutri-Score. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il n'y avait pas que des Nutri-Score A et B dans les premiers pas du Nutri-Score.
Il y avait une règle intéressante au début du Nutri-Score, c'était le fait de dire un industriel qui s'engage pour une partie doit le faire sur la totalité de sa gamme. Est-ce que dans la vision que vous avez du cahier des charges aujourd'hui, est-ce que un industriel devrait faire ça ?
Typiquement, Olivier Devers, on est au cœur des discussions qu'on a en ce moment avec les parties prenantes.
Mais votre posture, ça serait quand même plutôt de dire ils font ce qu'ils veulent, ou alors s'ils le font sur une partie, il faut quand même qu'ils aient l'honnêteté de le faire, surtout parce que le risque sinon, c'est qu'ils n'en parleront que quand c'est français.
J'aime pas biaiser les débats quand on est en train de débattre. Et comme je sais qu'ils risquent de m'écouter, je vais les laisser me répondre au cahier des charges. Parce que j'entends les deux, je ne veux pas non plus briser les élans. Okay. Donc vous m'autoriserez d'abord à consolider mon avis fort des retours des acteurs pour avoir une conviction ou une certitude sur ce sujet.
Bon, vous m'autoriserez à dire que ceux qui ne le feraient pas, moi, je les regarderai de manière très particulière.
Et ben voilà, comme ça, chacun c'est complémentaire. Rôle, bien.
Quelle est l'attente de la ministre vis-à-vis des distributeurs? Parce qu'ils sont à la fois des prescripteurs, parce que par leur décision d'achat, ils peuvent aller regarder d'un œil bienveillant des industriels qui joueraient plus le jeu. Et puis par ailleurs, ils sont eux-mêmes quasiment industriels de donneurs d'ordre, puisqu'ils ont tous leur gamme à marque de distributeur. A priori, ils sont d'accord pour engager leur marque de distributeur dans la démarche. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont dit le 13 mars. Est-ce que vous leur demanderiez, pour aller encore plus loin, plus vite, une forme de bienveillance vis-à-vis de leurs fournisseurs qui joueraient le jeu de l'origine info plus que les autres ou pas?
Vous voyez le sens? Je vous ai parlé d'honnêteté et de vérité. Et dans mes valeurs cardinales, il y a la liberté. Je vous l'ai dit au tout début, je viens de l'entreprise. On mesure mal, parfois, quand on ne connaît pas bien l'entreprise, l'importance qu'ont des politiques commerciales. Ma mission, ce n'est pas d'interférer dans les politiques commerciales de ces distributeurs, point 1. Point 2, je rappelle, hashtag vérité, que des distributeurs et non des moindres, Leclerc, Savoir d'achat, les mousquetaires Intermarché avec le Francoscore, ont pris ce sujet à bras-le-corps bien avant que je sois ministre. Bon. Donc, il faut être juste aussi. On a beaucoup entendu de choses sur les distributeurs, les industriels ces dernières années. Là-dessus, il y en a quelques-uns qui ont été plutôt des prescripteurs plutôt que des suiveurs. Il me semblerait, en tant que citoyenne, c'est pas la ministre qui parle, il me semblerait logique que quand un distributeur s'est mis en avant et a pris le temps, dès 2018-2019, de s'investir sur ce sujet-là, un, qu'il soit parmi les premiers à jouer le jeu aujourd'hui, deux, qu'ils appliquent cette forme de bienveillance. Ça me semblerait logique et cohérent. Ils se sont appliqués à eux-mêmes des choses qu'ils seraient en nature d'attendre de ceux qui fournissent les étals et les linéaires.
Donc il y a une forme de
en toute logique, ça me semblerait logique. Mmh. Mais en droit, ni d'ailleurs en droit, ni d'un point de vue politique, je n'ai à leur souffler, ni même à leur imposer. Mmh. Mais je crois qu'il y a, et j'étais, vous le savez, il y a quelques semaines, à l'inauguration d'un nouveau drive zéro déchet, circuit court, qui s'appelle Tout Nu, vous le savez, près à Toulouse. Je crois qu'on est ici sur une ligne de fond, si je puis me permettre. La ligne de fond, c'est donner les informations pour que le consommateur puisse s'arbitrer. Le consommateur est bien conscient d'un certain nombre d'enjeux. Il y a quand même une appétence forte chez les jeunes notamment, mais pas uniquement, chez aussi nos seniors, à retrouver l'origine de l'aliment qu'il mange, à comprendre d'où il vient. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Donc, on a affaire à des acteurs économiques, pour terminer, que ce soit des industriels ou que ce soit la grande distribution. Ils n'ont pas besoin forcément de la ministre pour comprendre le sens de l'histoire. Ils font beaucoup d'études, ils ont les écoutilles ouvertes. Donc, c'est pas anodin qu'ils soient venus tous autour de la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun n'avait envie d'être montré comme étant celui qui n'est pas partie prenante de cette démarche origine info. C'est bien la démonstration qu'il y a là une priorité. Alors, pas pour satisfaire la ministre, je vous rassure, si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Mais pour satisfaire le consommateur, augmenter leur volume de vente et donc augmenter leur chiffre d'affaires.
Bon, bientôt la fin de ce Café Conso. La question qui pique ou qui dérange, si on va plus loin que la démarche origine info, comment on peut rendre la consommation plus responsable? Est-ce que c'est dans la responsabilité du politique de rendre le consommateur plus responsable?
Le rôle du politique, c'est de créer un environnement, de créer des conditions pour que le citoyen et le même qui est aussi consommateur puisse exercer son libre arbitre et faire ses choix. Moi, j'ai toujours été très très opposée aux démarches d'infantilisation, de prise par la main du consommateur. Je suis extrêmement libérale.
Jusqu'à la moralisation ?
Je crois pas, et on a eu des débats parfois à l'Assemblée nationale notamment qui étaient intéressants. Je crois pas à l'État nounou, je crois pas à l'État qui me dit ce que je dois manger, je crois pas à l'État qui me dit ce que je dois faire, et je crois encore moins à l'État qui me dit ce que je dois penser. Je crois aux politiques publiques qui permettent à ceux qui veulent le savoir d'avoir accès à l'information. Donc ma mission, c'est de créer les conditions pour que l'information soit disponible. Tu en tiens compte, tu en tiens pas compte en tant que consommateur. Mais au moins, ma mission, ça a été de te donner la faculté d'avoir accès à cette information. Il y a beaucoup de choses sur le champ de la consommation responsable. C'est, à mon avis, un des très grands enjeux politiques au sens noble des 20 prochaines années. Et donc, créer les conditions en matière de transparence, vous voyez, je l'ai fait il y a 2 ans sur... pouvoir résilier facilement un abonnement télé, téléphonie, en ayant un geste à faire et en étant beaucoup plus en transparence avec les fournisseurs de ces services d'accès. J'ai créé les conditions pour que ceux qui veuillent se dégager de ces abonnements le fassent, que ceux qui ne le veuillent pas le fassent pas. Mais j'ai créé la possibilité.
La même question en version presque philosophique. La consommation, et notamment ses excès, ça peut être vu, je dis bien ça peut être vu, comme une forme de problème dans le cadre de la gestion des ressources, de l'économie.
Bien sûr.
Et dans le même temps, la consommation, c'est aussi une source de bonheur individuel pour certains, parce que certains sociologues considèrent encore que la consommation est une forme de réalisation de l'individu. Entre ces deux postures, la ministre de la consommation, c'est marqué sur le titre.
Bien sûr, voilà. Et je l'assume.
Voilà. Est-ce que les deux doivent cohabiter ? Est-ce que finalement, entre la consommation qui tue la planète et la consommation qui épanouit l'individu, il y a un choix à faire ?
Il y a un choix, il y a un chemin, il y a des outils, notamment la politique fiscale, la politique économique. Il y a aussi une réalité, vous m'en pardonnerez, c'est que... je suis sincère et honnête, on ne me refera pas. Je ne peux pas répondre à une question aussi complexe en 2 minutes. Donc je vous fais une proposition.
On la met au bac de philo.
Non, non, mais sérieusement, si vous l'acceptez, d'ici au congé du mois d'août, si vous l'acceptez et que ceux qui nous écoutent n'ont pas cassé votre Twitter parce qu'ils étaient fatigués de m'entendre, je suggère qu'on s'en fasse un café conso.
Sur ce sujet.
Un summer café conso. C'est un débat qui me passionne, mais où je ne peux pas répondre sincèrement en 2 minutes. Donc si vous l'acceptez, on se fait un point juillet, par exemple, avec grand plaisir sur cet enjeu qui est un enjeu d'avenir.
Ben, rendez-vous est pris, ça sera un café frappé.
Très bien.
Conso, merci, Madame la Ministre.
Merci à vous, merci Olivier Dauvers.